le consommateur final commence à toucher de très près ce que l'IA va amener.
Bonjour Franck Abissira.
Bonjour.
Partenaire du cabinet de consulting Emerton, spécialisé dans les médias, les télécoms, etc. Vous avez été patron de la box de Bouygues Télécom.
Oui, tout à fait. J'ai rejoint Bouygues Télécom pour lancer la B-Box, et qui a été une aventure humaine extraordinaire et un beau projet qui est très pérenne, puisque Bouygues Télécom est un acteur maintenant important, je dirais, du monde du fixe en France.
Alors, c'est intéressant d'avoir votre regard d'analyste. Hein. Que retenez-vous de cette édition 2024 du Mobile World Congress de Barcelone ?
Il y a un premier mot qui est sur tous les stands, comme il était au CES de Las Vegas au mois de janvier, c'est AI, intelligence artificielle, avec une présence qui est beaucoup plus percevable qu'elle était au CES. Je pense que la grande différence au CES, le CES est un salon technologique où il y a beaucoup de verticales. Ici, on est comme télécom, on est dans un usage qui est le smartphone, qui est un usage incroyable de notre vie au quotidien. Et c'est vrai qu'on se projette assez facilement sur des use cases comme on pourrait... On peut déjà les utiliser sur certaines annonces qui ont été faites lors du NWC chez Samsung avec le S24 par exemple. Donc on commence à toucher le consommateur final commence à toucher de très près ce que l'IA va amener. La traduction, la correction de l'image sur son smartphone, etc. Donc on touche du doigt ce qui est peut-être plus difficile dans d'autres verticales aujourd'hui de toucher. Donc c'est assez impressionnant, c'est assez présent. Et puis ce qui est aussi intéressant, c'est de voir aussi sur des aspects beaucoup plus de production. Au niveau des grands acteurs comme Nokia, comme Ericsson, des grands acteurs et équipementiers télécom, c'est comment ils amènent aussi l'IA et comment l'IA se développe pour offrir plus de qualité, améliorer l'expérience client. Donc vraiment, on le voit et on le touche de très près là.
Mais est-ce que les utilisateurs seront au rendez-vous ? Parce qu'on voit des choses fantastiques, mais parfois on se dit, est-ce que vraiment tout le monde va utiliser ça ?
Non, mais je pense qu'il y a des use cases comme la traduction où je pense que oui, on va l'utiliser, parce que je pense qu'on est dans un monde beaucoup plus global. Et c'est vrai que c'est sympa de se projeter en disant, ben, j'arrive dans un pays, je prends mon smartphone et je parle à un chauffeur de taxi comme s'il était à la maison à Paris. Donc non, il y a des use cases, c'est facile à se projeter. Je pense que l'image, on est surconsommateur de l'image aujourd'hui, donc... Là aussi, on va l'utiliser et c'est certain que... et puis même les grands acteurs, je prends les plateformes de streaming, vont utiliser de l'IA pour offrir des expériences clients différentes. Après, je pense qu'il y a des sujets de l'IA qu'on percevra moins qui vont amener du retour sur investissement. Typiquement, la relation client, comment on va la digitaliser, l'expérience client sur sa box opérateur aussi, ça va arriver. Donc il y a pour les opérateurs clairement des gains de productivité, de l'optimisation dans un monde télécom qui est quand même dur. On continue à investir beaucoup d'argent. C'est vraiment visible au Mobile World Congress. On termine à peine le déploiement de 5G, on va sur les stands d'Ericsson et Nokia, on parle déjà de la 6G, alors même si c'est pour demain. Donc on est dans un business où il faut optimiser, il faut trouver des sources, je dirais, d'économie. Donc l'IA va les aider. L'IA va vraiment aider l'industrie, c'est certain.
Alors cette année encore, il y a une grosse présence chinoise. Hein, et ils sont là avec énormément d'innovations.
Alors les Chinois sont très présents. C'est vrai, quand on va dans l'espace Huawei, là, on se dit, mais waouh, c'est dingue. Bon, il y a quand même, on sent quand même, alors il y a un contexte géopolitique, la guerre en Ukraine, etc. On sent quand même la petite musique de fond sous-ventée, en tout cas sur les acteurs européens, qui fait que voilà, il y a un peu de méfiance. La présence chinoise, elle est encore très forte en Afrique. Elle est encore très forte dans des pays, je dirais, du Sud. Par contre, sur les grands pays, les États-Unis, on n'en parle même pas, hein, ils ont fait un choix. Et en Europe, on sent quand même Huawei en perte de vitesse, pas uniquement sur le smartphone, même sur son cœur de business, qui est la partie opérateur télécom.
Oui. Oui, mais en même temps, l'innovation, c'est là qu'elle se passe. Hein. On voit, c'est dans tous les domaines, c'est les objets connectés, les chiens robots, les voitures même. Et pourtant, on sent qu'ils ont encore un peu de mal à s'imposer en Europe.
Hein. Ils ont toujours un marché local et intérieur qui est gigantesque et qui leur permet de développer l'innovation. Après, la présence qu'ils vont conserver ou développer sur d'autres géographies va être plus compliquée. Sur la partie robotique et ces enjeux-là, moi, je reste très impressionné, en effet, de ce qui se passe plutôt côté Corée, qui sont des partenaires un petit peu plus faciles aujourd'hui.
Fréquentables.
Le terme fréquentable est un peu dur, on va dire comme ça, oui. Mais c'est vrai que clairement, les Coréens ne sont pas en reste. D'ailleurs, le stand ici au Mobile World Congress de SK Telecom, en termes d'innovation, et honnêtement, y a, sur l'IA en particulier, il y a une longueur d'avance par rapport aux autres. Elle est très présente et déjà présente.
Mais alors, si on fait la fine bouche, nous, Européens, face aux innovations chinoises, est-ce qu'on ne risque pas de se priver un peu de certaines technologies ?
Moi, je reste optimiste. Je pense qu'il y a une prise de conscience au niveau européen que, en tout cas, sur le sujet de l'IA, et peut-être demain du quantum, c'est une partie qu'on ne peut pas perdre. C'est une partie essentielle pour la souveraineté de l'Europe. Donc, je suis assez optimiste sur le fait que cette partie-là, on va la développer. Il y a des initiatives en France, il y a des initiatives en Allemagne, UK, bon, il y a le Brexit, mais c'est quand même un territoire qui est proche. Donc, non, je pense qu'il y a une nouvelle vague d'innovation qui est en train d'arriver autour de l'IA et demain du quantum, sur lesquels les Européens ont une partie à jouer. Et puis, même sur d'autres industries, on parle d'énergie. C'est vrai que sur le stand de Huawei, c'est assez marrant. Mais, comme vous le disiez, c'est très juste. C'est d'abord un opérateur, un industriel qui parle aux opérateurs télécoms et il nous présente de l'énergie, il parle d'automobile, etc. Patron de Huawei dit même qu'il veut devenir un des premiers constructeurs d'automobiles en Chine à une vitesse incroyable. BYD, c'est déjà le cas aujourd'hui en Chine. Bon, maintenant, on a aussi en Europe pris conscience que les batteries, il fallait qu'on les fabrique et on ne va pas faire la même chose qu'on a fait sur le photovoltaïque où on s'est laissé complètement déposséder par l'industrie chinoise. Donc, je pense que sans vouloir faire un... Je suis convaincu que l'Europe a encore sa carte à jouer, mais par contre, il faut pas la perdre, sinon on va être déclassé. Oui, sinon on a un risque de déclassement, oui. Parce que bon, sur la partie digitale, c'est quand même les Américains qui mènent le bal aujourd'hui avec AWS, avec OpenAI, avec Microsoft. Voilà, donc il faut que nous, Europe, on soit présent et il faut se développer, oui.
Merci beaucoup, Franck Abissira.
C'était un plaisir.
Et Merton.